réplique, Oppenheimer, la science et la bombe, avec Jean-Pierre Dupuis et Étienne Klein. Après avoir vu le film magnifique de Christopher Nolan, je me suis précipité sur la biographie qu'il avait inspirée, Robert Oppenheimer, triomphe et tragédie d'un génie. Je l'ai lu cet été le cœur battant, et ma curiosité n'étant pas encore assouvie, j'ai invité aujourd'hui le philosophe qui a eu une formation scientifique, Jean-Pierre Dupuis, et le physicien Étienne Klein. Une question très générale pour commencer. Que représente pour vous la figure d'Oppenheimer? Et d'abord le physicien Étienne
Klein. Oppenheimer, c'est d'abord le pacte faustien entre la physique la plus abstraite et le mal le plus absolu. Mais pour un physicien, c'est surtout, je dirais, un génie tourmenté. Il a été tourmenté toute sa vie, avant le projet de la bombe atomique, le projet Manhattan, mais également après. Mais son tourment, me semble-t-il, n'était pas de même nature, parce que le projet Manhattan a reconfiguré sa personnalité. Mais comme physicien, il a apporté des contributions très très importantes à la physique quantique et à la physique nucléaire. Par exemple, c'est lui qui a découvert ce qu'on appelle l'effet tunnel, le fait qu'une particule peut franchir une barrière de potentiel que la physique dite classique lui interdirait de faire. Il a compris avant Paul Dirac l'existence des antiparticules, puisque Paul Dirac, physicien britannique qui a été un grand ami d'Oppenheimer, a écrit en 1928 une équation qui unifie la physique quantique et la relativité restreinte. Apparaissaient là des énergies négatives qu'il ne savait pas comment interpréter. Il a d'abord pensé que c'était des protons. Une équation qui décrit l'électron permet de prédire le proton, donc il a l'impression d'avoir trouvé une théorie du tout presque, et Oppenheimer lui a fait remarquer que ces énergies négatives devaient correspondre à des particules de même masse que l'électron, c'était le positron, et donc c'est une contribution absolument majeure d'Oppenheimer. Et quelques années plus tard, il a compris qu'une étoile très massive, une fois qu'elle a épuisé son combustible nucléaire, doit s'effondrer en un trou noir. Il aurait pu avoir le prix Nobel pour ça, d'ailleurs, je pense, puisque ses prédictions ont été confirmées par la suite, mais après sa mort. Et donc, c'est un grand, grand physicien théoricien qui avait au départ une formation de chimiste. Ah oui. Et c'est en venant à Cambridge, il a rencontré les plus grands physiciens de l'époque, à l'époque où la physique quantique se met sur pied. Lui, qui n'en avait jamais entendu parler aux États-Unis, découvre un nouveau monde qui le passionne.
Et pour vous, Jean-Pierre Dupuis?
Moi, j'ai découvert la figure de Oppenheimer en travaillant depuis 2001 à peu près une sorte d'histoire philosophique de la violence. Bon, et bien sûr, au centre était la possibilité d'une guerre nucléaire qui mettrait fin à une partie de l'humanité et en tout cas la civilisation humaine. Et moi, j'ai découvert le livre qui a donné lieu au film de Christopher Nolan.
Le livre de Carl Byrd et Martin Sherwin.
Exactement. À peu près quand il est sorti, en 2005-2006. Et je savais très peu de choses sur Oppenheimer, simplement ce slogan que tout le monde répète, le père de la bombe atomique. Bon. Et j'ai découvert, et c'est comme ça que je réponds à votre question, un homme. Et c'est ça qui m'a vraiment touché. Et je dois dire que le film, on a rajouté en termes de pathétique et de etc. J'ai découvert un homme, l'histoire poignante d'un homme malheureux et qui fut en grande partie responsable de son malheur, du fait de traits de caractère acquis sans doute dès l'enfance. Mais ces traits ne lui ont pas permis de faire face aux défis gigantesques que l'histoire ou le destin ont mis sur son chemin.
Bon. Alors.
Sa formation était, il faudrait remonter, ça le livre en parle très bien et beaucoup, à sa formation juive séculière, de parents d'origine descendants d'Allemands, et qui était membre d'une société juive séculière qui s'appelait Ethical Culture Society, qu'on pourrait traduire par société de la culture éthique ou de, bon, quelque chose de genre. Bon, c'est, et ce qu'il avait retenu de cette formation, c'est l'amour de la science, l'amour de la rigueur, surtout par sa mère, la rationalité, etc. Et le voilà qui, destin, sort, etc., devient l'artisan d'un projet qui peut mettre à mort des centaines de millions d'individus.
Alors, je vais dire modestement ce qu'Oppenheimer, que j'ai découvert avec le film et avec le livre, représente pour moi, en me référant pour commencer à ce célèbre article de cette conférence de Charles Percy Snow, Les deux cultures, 1959, Oxford. Charles Percy Snow dit « Je crois que la vie intellectuelle de la société occidentale tend de plus en plus à se scinder en deux groupes distincts. À un pôle, nous avons les intellectuels littéraires qui se sont mis un beau jour en catimini à se qualifier d'intellectuel tout court, comme s'il était seul à avoir droit à cette appellation. À l'autre, les scientifiques, dont les plus représentatifs sont les physiciens, entre les deux, un abîme d'incompréhension mutuelle, incompréhension parfois teintée, notamment chez les jeunes, d'hostilité ou d'antipathie. » Mais il est vrai que, à l'âge de la technoscience, certains scientifiques sont tentés de n'admettre en guise de réel que l'objectivable et le calculable, tout le reste est littérature. Mais précisément, Oppenheimer, c'était pas son cas. C'est ça qui me frappe. Il ne s'est pas résigné à cette scission. Il a cherché à combler l'abîme. Vous dites, Jean-Pierre Dupuis, en effet, que ses parents, venus eux-mêmes d'Allemagne, son père s'était enrichi dans la confection, c'est un homme d'affaires. Ses parents ont intégré l'Ethical Culture Society. La devise de l'établissement était « agir, ne pas croire ». Et sa réponse à l'antisémitisme, c'était la diffusion mondiale de la culture intellectuelle. Moyennant quoi, il a fait ses études. Et là, il lisait Platon et Homère en grec, César, Virgile et Horace en latin. Et tout au long de la biographie, on apprend l'importance pour lui des humanités. Tchekhov, Claudel, T.S. Eliot, Proust qui a joué un rôle majeur, qui l'a sorti de sa dépression même. Et quand il était directeur de l'Institute for Advanced Studies, l'espèce d'abbaye de Thélème de Princeton, il disait « la science a besoin des humanités » et il a invité T.S. Eliot, ce qui n'était pas du goût des mathématiciens de l'Institut, ceci battait froid le poète. Et alors là, la question que je pose, et vous avez commencé d'y répondre, Jean-Pierre Dupuis, comment se fait-il que l'homme qui a dit « la physique a une beauté qu'aucune autre science ne peut égaler », comment se fait-il que cet homme se soit retrouvé à la tête de l'équipe de scientifiques qui a mis au point la bombe atomique, Étienne Klein?
Alors en effet, Oppenheimer, il avait une culture littéraire, une passion pour la poésie. D'ailleurs, il a écrit lui-même des poèmes. Mais je crois que beaucoup des pères fondateurs de la physique quantique étaient dans cette situation. Il avait une ouverture philosophique. Si on prend l'exemple de Heisenberg, de Bohr, ce sont des gens qui avaient ces deux cultures, même si, d'ailleurs, ces cultures n'étaient pas séparées. On disait pas, il y a d'un côté la culture scientifique et de l'autre côté la culture littéraire ou philosophique. Il y a une exception qui est Paul Dirac. Paul Dirac a partagé la même chambre que Oppenheimer lorsqu'ils ont séjourné pendant plusieurs mois à Göttingen à partir de 1927. Et Dirac voyait que Oppenheimer lisait la Bhagavad Gita en sanskrit.
En sanskrit.
Voilà. Et il se disait, mais pourquoi tu lis ces saloperies, comme il disait, c'est ça. Il dit, la physique, ça a pour but de découvrir des choses nouvelles et de les dire le plus simplement possible. Et toi, tu perds ton temps à lire des choses qui sont déjà connues et qui sont dites d'une façon très absconce. Et en fait, je crois que Oppenheimer, il a compris que d'une part, la physique était belle, puisque, et quand il parle de beauté, je pense que, comme Dirac, il évoque la beauté des équations.
Oui, c'est ça.
Les équations, elles sont belles au sens où elles mettent en avant des symétries, elles s'appuient sur des principes qui mathématiquement sont esthétiques, et en plus, entre guillemets, ça marche. Ça permet de rendre compte du réel. Je pense que c'est à cette beauté-là qu'il fait référence. Mais évidemment, il a été engagé dans un projet très, très technique, parce que finalement, la bombe atomique, c'est un projet d'ingénieur. Du point de vue théorique, il y a très peu de progrès qui ont été faits pendant ces années-là. On peut même dire que le projet Manhattan a mis la physique à l'arrêt, d'une certaine façon, puisque quand Wolfgang Pauli, un des jeunes prodiges de l'époque, a candidaté pour participer au projet Manhattan, Oppenheimer lui a dit « Non, on aura besoin, après la guerre, de physiciens qui sachent encore ce qu'est un Maison Pi. » particules qui venaient d'avoir été découvertes quelques années avant la guerre. Et donc, il s'est trouvé embarqué dans un projet qui lui correspondait pas, mais, comme je le disais tout à l'heure, il a reconfiguré sa personnalité. Et d'après tous ceux qui ont participé au projet, ça a été un chef de projet extraordinaire.
Oui, il paraît, oui. Alors justement, pourquoi a-t-il fait ce choix, à votre avis, Jean-Pierre Dupuis ?
Juste un mot sur le choix difficile qu'il a eu à faire et que certains d'entre nous ont eu à faire, et je pense à moi en particulier. Bon, très jeune, d'avoir à choisir entre les sciences et la littérature ou la poésie. Hein. Alors, il aimait réciter des poèmes en français. Hein. Son français était très bon. Mais alors, il y a un poème qu'il a appris par cœur d'une de ses maîtresses, parce qu'il faut dire aussi que ce fut, alors que sa jeunesse a été sexuellement très bridée, et s'est rattrapé par la suite. Et alors, en particulier, il y a sa première grande maîtresse, disons, qui s'appelait Jean Tatlock,
oui. Bon,
dont le père était un collègue d'Oppenheimer à Berkeley, et lui avait appris par cœur, enfin, lui avait le poème de John Donne qui s'appelle Batter My Heart, Three-Personed God. Frappe mon cœur. Toi, Dieu en trois personnes. C'est comme ça qu'il a appelé le site de la
Trinity.
Première bombe atomique, Trinity, bien évidemment. Bon. Alors pourquoi est-ce qu'il en est venu à cela ? Ben, c'était, il faut le rappeler, parce que ça, je ne le savais pas. Et Étienne Klein peut confirmer, ou non d'ailleurs, ce fut un très grand physicien dans la période...
Vous l'avez dit d'ailleurs, Étienne Klein, oui.
Oui, mais alors, il faut ajouter qu'il a impressionné beaucoup de physiciens dont on pouvait juger qu'ils étaient plus forts que lui. Alors, par exemple, ceux qu'on a appelés les Martiens, c'est-à-dire tous ces Juifs hongrois qui sont arrivés aux États-Unis et qui ont fait... Il y a Zillard, il y a Edward Teller...
Wigner.
Il y a Wigner, absolument. Bon, John von Neumann, bien évidemment. Et pendant la période des années 30... Alors, Il a passé une année à Göttingen, en Allemagne.
Oui.
Et c'est là qu'il a épaté, mais aussi énormément énervé des gens qui étaient sans doute plus forts que lui, y compris Bohr, etc. Il les énervait. Et ça, c'est pour la suite de l'histoire, c'est très important. Parce qu'il a créé des inimitiés, mais en même temps des gens qui considéraient qu'il était vraiment très fort.
Mais ça ne nous dit toujours pas pourquoi il a fait ce... Il a sauté le pas.
Ah ben, c'est pas lui qui a sauté le pas. Je pense que c'est... Alors, il faut parler de quelqu'un qui est quand même très important, qui est le véritable chef du projet Manhattan, qui est le général...
Groves.
Oui, joué par Matt Damon dans le film.
Admirablement joué, d'ailleurs.
Admirablement joué, mais de manière tout à fait infidèle. Puisque Groves a été arrêté dans son ascension par le président, par Eisenhower, lorsqu'Eisenhower était encore chef d'état-major.
Oui, mais
de
vous dites, c'est Groves qui a une influence, etc. Il n'empêche qu'Oppenheimer, que rien ne destinait à, justement, la physique appliquée, et a fortiori appliquée à la bombe. C'était un théoricien qui n'aimait même pas tellement les laboratoires, semble-t-il. Ah ben,
qui était nul en pratique.
Bon. Mais moi, il me semble quand même que ça tient à la situation. C'est-à-dire, il fallait mettre au point une bombe avant l'ennemi. Seule une bombe atomique, disait-il, peut déloger Hitler de l'Europe. Et c'est ainsi quand même qu'un homme comme Oppenheimer a choisi de diriger malgré tout ce centre à Los Alamos et qu'il a réussi à réunir auprès de lui, au milieu de nulle part, quelques centaines de scientifiques, parce que c'est peut-être un projet d'ingénieur, mais il fallait que les meilleurs cerveaux sachent y travailler. Donc il y avait aussi cette urgence de la lutte contre le nazisme.
Non, je ne crois
c'est
pas.
Ça qu'il faut
je
penser.
Je ne crois absolument
mais si.
Pas. Attendez, mais je réponds.
Mais oui, vous
je
répondez.
Ne crois absolument pas. Je crois que ce qui comptait pour lui, c'était tout simplement... La psychologie est énorme là-dedans. J'ai parlé que j'étais intéressé par l'homme. Il voulait la reconnaissance. Et il l'avait. Et c'était un projet absolument extraordinaire. La lutte contre le nazisme, mais bien sûr, Mais je ne crois pas que c'était ça le motif principal.
Enfin, quand même, il n'est pas le seul.
Je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que, Oppenheimer, il s'est dit dans le film et dans le livre, évidemment, il avait des sympathies de gauche. Il s'est même engagé pour défendre les républicains espagnols. Et puis Victor Weisskopf, qui a été directeur du CERN et que j'ai connu, d'ailleurs il est cité dans le livre, raconte que après un séjour de quelques mois en Union soviétique, il a expliqué à Oppenheimer que c'était pas si rose. Et quand Oppenheimer a appris, comme tout le monde à l'époque, la possibilité de faire fissionner de l'uranium en le percutant avec des neutrons, il a compris, d'abord il a commencé par douter que c'était possible, et quand il a eu la certitude que la fission était vraiment possible, il a dit à Weisskopf, il y a plus important dans le monde aujourd'hui que la guerre d'Espagne. Et la signature du pacte germano-soviétique l'a mis dans un état de panique en disant, mais du coup, il se pourrait que Hitler ait la bombe. Et je pense que même si les aspects psychologiques ont joué un rôle, comme le dit Jean-Pierre Dupuis, il y a quand même chez tous ces physiciens l'idée que si Hitler a la bombe, et il l'aura. Enfin, il a sans doute de l'avance, en plus, sur les Américains. Et je pense que ça a été un moteur de l'engagement de beaucoup de ces physiciens.
Je voudrais répondre, car ce point est très important, pour comprendre la suite, c'est-à-dire ce qui s'est passé à partir de 1954, c'est-à-dire le procès ignoble qui lui a été fait.
Oui, nous en parlons.
Et le fait qu'il se soit très mal défendu. Bon, il a été choisi. Il a été choisi par, et la véritable question à poser, c'est comment se fait-il que Leslie Groves, le général, qui était un général dans le corps des ingénieurs de l'armée américaine. Hein. Bon, lui-même un ingénieur. Comment sait-il qu'il l'ait choisi ? Alors, il y a deux raisons que l'histoire montre, pas seulement le livre d'ailleurs dont nous parlons. C'est un, évidemment, sa réputation comme grand physicien, mais deux, le fait qu'il le sentait, que Groves sentait que Oppenheimer était sensible à l'autorité.
Mais c'est très psychologique, vous dites.
Mais oui, mais je sais bien. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais le livre que nous commentons. Alors, il n'y a pas que ce livre. Moi, j'ai trois autres livres avec moi ici, sur Oppenheimer, hein. Mais ce livre insiste énormément sur le caractère ou les défauts de caractère d'Oppenheimer.
Alors, quand même. Mais ce livre, je l'ai lu aussi. J'ai pas tous les autres, Jean-Pierre Dupuis, donc je n'ai pas votre culture oppenheimerienne. Mais je vais vous citer un dialogue entre un autre physicien
Isidore Rabi.
Rabi ne souhaitait pas faire de l'aboutissement de trois siècles de physique une arme de destruction massive. Réponse d'Oppenheimer. Je pense que si je croyais comme toi que ce projet est l'aboutissement de trois siècles de physique, il me faudrait adopter une position différente. Pour moi, il s'agit avant tout du développement en temps de guerre d'une arme militaire d'une certaine importance. Je ne pense pas que les nazis nous laissent la possibilité de ne pas mener cela à bien. Voilà quand même la réponse d'Oppenheimer, telle que le livre la donne. Alors, les composantes psychologiques, évidemment, sont importantes.
Mais le fait qu'il ait été choisi par Groves, c'est oui. Groves qui est allé le contacter.
C'était pas bête de sa part.
Non, certainement.
Oppenheimer avait montré son intérêt quand même pour la fission, il avait fait des calculs.
Non, mais la fission, pas une arme de destruction massive. Et l'histoire d'aller plus vite que la bombe allemande, Alors, les justifications qu'il a données, avant et après, était que ça allait arrêter toute guerre. Hein, que oui, la construction... c'est essentiel.
Oui, mais c'était la justification qu'il se donnait à lui-même. Comment vous expliquez? Écoutez, Los Alamos, c'était rien du tout. C'est d'abord un avant-poste sauvage, et c'est devenu, c'est extraordinaire, en 1942 donc, une petite ville de 4000 civils, 2000 hommes en uniforme. 200 immeubles résidentiels, 52 dortoirs, 200 caravanes. Donc, il n'était pas seul. Et comment se fait-il que tant de scientifiques, de physiciens de haut niveau, se soient mobilisés avec lui et accepté de quitter leur chair, leur maison, leur appartement, pour vivre si longtemps à Los Alamos? Que penser de cette espèce de regroupement autour du projet Manhattan?
Justement, c'est quelque chose que le film ne montre pas bien. C'est-à-dire qu'en juin 1945, À Los Alamos, il y avait, et dans d'autres centres qui faisaient, par exemple, de la séparation isotopique, il y avait au total 130 000 personnes. On les voit pas beaucoup dans le film. Il n'y avait pas que des physiciens, il y avait beaucoup d'ouvriers du bâtiment, des gens qui travaillaient à différentes tâches de type industriel. Et ce qu'avaient compris les Américains, que les Allemands n'avaient sans doute pas compris de la même façon, c'est qu'il faudrait des moyens énormes qui ont été mobilisés. C'est l'invention de la big science, on pourrait dire. Alors que les Allemands avaient une approche plutôt universitaire de la chose, avaient fait des erreurs sur le calcul de la masse critique de l'uranium, pensaient que la séparation isotopique qui permet à l'isotope fissile, le 235, d'être plus abondant qu'il est dans la nature, était techniquement impossible. Et c'était une affaire sérieuse, puisque le général Groves avait tenté de vouloir faire assassiner Heisenberg, le chef du projet allemand, et les Allemands ont tenté d'assassiner Bohr. Donc Niels Bohr, grand physicien qui a passé quelques temps, danois, qui a passé quelques temps à Los Alamos, justement. Donc je pense que la perspective que les nazis et la bombe, qui a d'ailleurs alimenté la rhétorique de la lettre signée par Einstein en 1939, écrite par deux autres qui étaient Wigner et Szilard, la rhétorique selon laquelle les Allemands, les nazis pouvaient avoir la bombe a joué un rôle déterminant. Pas tout de suite, parce que le président Roosevelt a d'abord créé un petit comité uranium qui faisait de l'observation, du suivi, comme on pourrait dire. Et c'est l'attaque de Pearl Harbor qui a décidé l'entrée en guerre des États-Unis et très rapidement la décision de faire
Los Alamos.
Bon, Los Alamos.
Alain, je vous renvoie à ce que vous disiez. Il a réussi à réunir
Il a fédéré.
D'abord, il faut dire que Los Alamos n'est qu'une partie du projet Manhattan. Oui. Il y avait d'autres sites dans le Tennessee, Oak Ridge, et un site dans l'État de Washington qui était au moins aussi important. Bon,
vous rendez compte.
Mais deux, les gens qu'il a rassemblés, une partie d'entre eux se sont montrés absolument cruels avec lui après. Alors, je pense en particulier à deux d'entre eux, Edward Teller, qui faisait partie des Martiens venus de Hongrie, etc.
Il était cruel d'emblée.
Et qui, comment ?
Il a été cruel d'emblée, Teller, pas après seulement.
Oui, c'est pas évident. Non, et d'ailleurs, le livre le montre, ils ont été amis, et puis ça s'est retourné. Mais c'est parce que Teller voulait faire la bombe hydrogène. À hydrogène, et que déjà, Oppenheimer était très réticent.
Oui,
et l'autre grand physicien qui était à Los Alamos et qui s'est retourné absolument contre lui, c'est Ernest Lawrence, qui est vraiment l'inventeur de la Big Science. C'est le premier cyclotron. Et il a créé, et ça existe toujours, c'est près de chez moi, de l'autre côté de la baie de San Francisco, c'est le Lawrence Livermore Lab, où donc le premier cyclotron. Et Lawrence et Teller ont tout fait dans leur témoignage pour empêcher, puisque c'est ça l'enjeu, n'est-ce pas, 1954, empêcher que Oppenheimer ait l'accréditation qui lui permettait d'accéder non seulement aux secrets militaires, mais aussi aux délibérations. Bon.
Mais ça, c'est après.
Non, mais c'est en 54.
Mais c'est en 54, oui, mais justement.
Non, mais attendez, mais les inimitiés en question, et le livre le montre bien, sont nés dès Los Alamos.
Dès Los Alamos. Il y a eu des inimitiés, ils n'empêchent. Ils avaient réussi, ils ont même fait un essai, Trinity, qui a marché, ils ne savaient pas si ça marchait, et puis, grande surprise, paradoxe, la bombe est larguée sur le Japon. Le 10 mars 45, l'armée américaine, 334 bombardiers, avaient déversé des tonnes de napalm sur Tokyo. Cette tempête de feu avait fait 100 000 victimes, et réduit en cendres l'intégralité de la ville. Pourtant, le 6 août 45, Hiroshima. Trois jours plus tard, Nagasaki. Et c'est le remords, sans doute, de Oppenheimer vient de là, parce que il semblerait que les Japonais étaient prêts à capituler à ce moment-là. C'était en effet des guerriers très durs et l'armée américaine essuyait des pertes énormes. Mais ils étaient prêts à capituler. Donc on peut penser qu'il s'agissait d'empêcher le soviétique de participer à l'occupation du Japon. Il s'agissait en quelque sorte de mettre fin à la guerre avant l'arrivée des Russes. C'était ça le calcul de Truman d'après ce que dit la biographie d'Oppenheimer.
Oui, mais là, il y a d'autres sources. Excusez-moi, là. Bon,
ah, ben,
Voilà, il faut rappeler les dates, quand même. la décision de larguer les bombes sur le Japon est prise par Truman à la conférence de Potsdam. Potsdam est la banlieue sud-ouest de Berlin. Il y avait là Truman, ses deux secrétaires et d'État et de la guerre, Stimson et Burns, si je me souviens bien. Il y avait donc Staline et Churchill. C'était le 17 juillet 1945. La veille, 16 juillet 1945, la bombe Trinity. Truman savait qu'elle marchait. Et effectivement, tout s'est passé comme si Truman avait rendu impossible une autre solution que lancer la bombe. Il y avait des tas d'autres solutions, par exemple l'effet de démonstration, etc.
Et convoquer les Japonais pour leur démontrer, oui.
Et aussi faire que les Russes déclarent la guerre tout de suite. Vous l'avez rappelé, Hiroshima, 6 août. Nagasaki, 9 août. Le 8 août, les Russes déclarent la guerre au Japon. Mais après Hiroshima, si Truman vraiment voulait la paix, ben il n'aurait pas désincité les Russes à déclarer la guerre tout de suite. Mais il les a fait retarder d'une jour pour... Tout s'est passé comme s'il voulait faire Hiroshima. Bon.
Mais il voulait faire Hiroshima peut-être pour empêcher les Soviétiques...
C'est une hypothèse qui est en particulier...
Peut-être pour faire croire qu'ils avaient plusieurs bombes en stock.
Pourquoi? Alors,
On en a deux, on en a trois.
Il y en avait une troisième qui était prête. Hein. Ouais. Tiens, d'ailleurs, j'ai eu quelque chose... c'est peut-être une anecdotale, mais notre ami spécialiste de Rousseau, Claude Habib, m'a rappelé que dans La Nouvelle-Héloïse, le petit îlot de Tinian, c'est le paradis. Saint-Preux revient du Pacifique, il arrive chez Julie, il voit sa sœur, et il dit, c'est magnifique, Juan Fernandez, Tinian, c'est le paradis. Or, Tinian, c'est là que les bombes ont été, celles d'Hiroshima comme celles de Nagasaki, ont été assemblées. Donc, le paradis d'un côté, l'enfer de l'autre. Ça, c'est l'ironie de l'histoire.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'entre la reddition de l'Allemagne et Hiroshima, il y a eu, chez les physiciens, de grandes questions, de grands troubles, de grandes interrogations. Il y a notamment une pétition qui a été lancée par Szilard, demandant que, puisque l'Allemagne s'était rendue, il fallait arrêter le programme, peut-être faire savoir que la bombe était possible, mais sans jamais l'utiliser. Et Victor Vraskov, dont j'ai parlé, qui était tout jeune à l'époque, qui travaillait au projet, nous disait, quand j'étais étudiant au CERN en 1980, dans ses cours, il faisait allusion à ça, parce que ça l'avait tourmenté toute sa vie, tous ces physiciens qui se disaient, mais finalement, nos efforts étaient dirigés contre la possibilité d'une bombe allemande, et ce n'est pas contre le Japon, dont il connaissait d'ailleurs très très mal la situation militaire, que nous devons utiliser la bombe. Donc il y a eu quand même un tourment, chez beaucoup d'entre eux, et Hiroshima, et Hiroshima était accueilli par des applaudissements, parce que c'était une expérience qui avait marché. Il n'avait pas vraiment de connaissance des conséquences que la bombe avait eues. Par contre, Nagasaki a été pour eux un sujet de remords, d'incompréhension.
Mais c'est là que je crois qu'il faut parler de la célèbre aujourd'hui entrevue entre Truman et Oppenheimer, n'est-ce pas, devant Eichson qui allait être le secrétaire d'État. Bon, Oppenheimer, en disant j'ai du sang sur les mains, se rendait en quelque sorte responsable d'Hiroshima et de Nagasaki.
Oui.
Mais Truman lui dit, mais s'il y a quelqu'un a du sang sur les mains, c'est moi qui ai pris la décision. Vous n'avez pas pris cette décision. Voyez bien, on voit là aussi. Je veux pas mettre quand même tout le blâme sur Oppenheimer. Enfin, je veux dire le blâme personnel en quelque sorte. Mais Oppenheimer, là aussi, essayait de se mettre en avant.
J'ai du sang sur les mains. Il se met pas en avant. Mais il souffre de ce qu'il vient de faire.
Mais oui, c'est exact. Il souffre et en même temps, il veut la ramener, quoi, tout simplement.
Bah, écoutez, je crois pas parce que juste après Trinity, donc l'essai du 16 juillet 1945, Richard Feynman,
qui était sur place,
dit à ce moment-là, on s'est arrêté de penser. On pouvait plus penser. On était dépassé par l'événement et nos facultés cognitives ont été en quelque sorte abîmées. Oui. Et je pense que ça a été vrai pour tout le monde. Et Oppenheimer n'a vraiment compris Hiroshima qu'après Hiroshima.
Et oui.
Et donc je pense que quand il va voir Truman en lui disant j'ai du sang sur les mains, c'est pas du tout pour se mettre en avant, mais parce qu'il a conscience.
Il est tourmenté, comme vous l'avez dit.
Il y a des rapports qui sont arrivés, il y a conscience.
Oui, mais la complexité humaine, hein, on peut, les deux peuvent être vrais en même temps.
Oui, peut-être, mais en tout cas.
Pour moi, c'est la preuve qu'il assume.
Il assume. Et ce que lui répond Truman est en effet, comme vous l'avez dit, le sang est sur mes mains, qu'il me laisse à mes affaires. Mais il lui dit aussi, enfin, il y a deux versions, j'ai du sang sur mes mains, ne vous en faites pas, ça part avec du savon. Et autre, oui. Autre version, il tire son mouchoir de sa poche et il le tend à Oppenheimer en lui disant, tenez, vous voulez vous essuyer. Et il refuse de revoir Oppenheimer en le traitant
The cry baby.
De scientifique pleurnichard.
Oui, enfin, cry baby, ce qui veut dire bébé pleurnichard, hein, littéralement.
Alors, et en même temps, Oppenheimer dit ceci, pas à Truman, à une autre occasion, dans un sens un peu grossier, que nulle vulgarité, nul humour, nulle exagération ne saurait effacer, les physiciens ont connu le péché, et c'est un savoir dont ils ne pourront plus jamais se défaire.
Oui, il a dit tout ça, c'est vrai.
Quel commentaire cela vous inspire-t-il ?
Mais c'est toujours au nom du bien qu'on fait. C'est souvent au nom du bien qu'on fait le mal. Bon, et ces gens agissaient au nom du bien. Il fallait empêcher Hitler d'avoir la bombe. Enfin, moi, je le redis parce que je pense que c'est ça la raison fondamentale.
Et une fois qu'il voulait faire de la littérature. Bon, c'est très bien dit. Hein. C'est très très bien dit. Bon.
Mais pourquoi de la littérature ? Je sais pas. On a l'impression que vous lui en voulez, Oppenheimer. Il est quand même une figure extraordinaire.
Non, mais c'est. Attendez, c'est une figure extraordinaire parce qu'elle est très humaine et qu'elle mélange les extrêmes, en quelque sorte. C'est-à-dire la grande humilité et l'orgueil. Bon, mais la vanité que tout. Mais écoutez, il a quand même réussi lors de l'année de Göttingen. Il embarrassait les physiciens présents qui... Mais oui, il les embarrassait par son...
L'arrogance.
Son arrogance, son
côté gauche,
etc. Bon, mais attendez, mais ça le rend humain. Mais non, on s'en fout pas.
Il y a même une pétition des élèves pour demander qu'il cesse d'intervenir dans les cours tellement il est arrogant. Ça, c'est vrai.
Mais
quand il est à Los Alamos, il y a plusieurs témoignages qui montrent que quand il parlait, la citation, c'est celle-ci, c'est quand il parle, je crois que c'est un physicien qui dit ça, quand il parle, on dirait qu'il grossit, car l'ampleur de son esprit s'affirme tellement qu'on en oublie la maigreur de son corps.
Bah, oui,
c'est vrai qu'il était très maigre, il n'a jamais dépassé 58 kilos, mais il a eu quand même une aura quand il était dans le projet Manhattan, qu'il n'avait pas quand il était étudiant. C'est pour ça que je pense que sa personnalité s'est reconfigurée complètement dans le cadre de ce projet. Avant, on disait de lui qu'il était incapable de tenir un stand de hamburger, que ses capacités d'animation, même de relations humaines, étaient tellement mauvaises. Il n'avait pas d'amis.
Il a même empoisonné son tuteur.
Non, il a voulu l'empoisonner, oh là.
Bah attendez,
il ne l'a pas empoisonné.
Non, il ne l'a pas empoisonné, simplement parce que le tuteur n'a pas mangé la pomme en question.
Ah oui, d'accord. Attendez. Mais il a eu un moment de
vie. Il a eu des problèmes.
Mais il a été, vous l'avez dit, Jean-Pierre Dupuis, persécuté dans les années 50, victime du macartisme. Il a dû passer devant une commission d'enquête.
Et c'est trop vite dit, victime du macartisme. Pas seulement. Ses amitiés communistes, c'est certain.
Mais alors,
et la véritable raison pour laquelle il a été arrêté, mais je l'ai dit tout à l'heure en passant, c'est qu'il était, mais ça n'a rien à voir, enfin, il y a toujours des liens, parce qu'il était contre le développement et la course aux armements, et en particulier la conception de la bombe H.
Absolument.
Et là, Taylor et Lawrence ont joué un rôle absolument fondamental dans sa démolition.
Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que Einstein lui a dit, il faut partir.
Oui.
Mais il aimait l'Amérique d'un amour aussi profondément ancré que son amour de la science, dit Einstein, et je voudrais vous lire un extrait de l'éloge funèbre de George Kennan, ce grand diplomate. Au début des années 50, dans ses jours sombres, qui le voyaient tourmenté de toutes parts et accablé sous le poids d'une controverse dont il était le centre, je lui avais fait remarquer qu'une centaine d'universités dans le monde pourraient être ravies de l'accueillir. Est-ce qu'il avait envisagé de quitter le pays pour s'installer à l'étranger ? Il m'avait répondu, les larmes aux yeux, le fait est que je l'aime, ce satané pays. Donc, il a été quand même mis en cause pour ses amitiés communistes, notamment avec Jean Tetlock, qui a été en effet sa maîtresse et un très grand amour. Et
sa femme aussi, d'ailleurs. Oui, Kitty Oppenheimer était communiste.
Oui, et mais il avait...
Son frère était communiste.
Son frère. Mais dès la fin des années 30, peu importe, mais il y avait aussi cette dimension patriotique chez Oppenheimer qu'il a découverte au moment, justement, de la montée du nazisme et de la guerre. Et c'est une composante aussi importante de sa personnalité que l'amour propre dont il s'est sans doute rendu coupable.
Il a un autre caractère de sa personnalité qui n'est pas agréable, c'est que lorsqu'il était persécuté, eh bien, il voulait être bien vu de ses persécuteurs. Ça, c'est dans son adolescence. Il y a plusieurs exemples montrés dans le livre. Mais par rapport aux gens, à la commission d'enquête du commissariat à l'énergie atomique, car c'est le commissariat, ça s'appelait comme ça en anglais, qui l'a interrogé, je devrais dire cuisiné. Donc, il a perdu son habilitation. Et le reste de sa vie... Parce qu'on est en 54, il est mort en 67.
Oui. Hein,
le reste de sa vie, il a cherché à se faire réhabiliter et à retrouver.
Patriotisme.
Non, Einstein, Bethe, d'autres, etc., lui disaient tu t'en fiches de ton habilitation, t'es plus fort qu'eux.
Einstein disait je suis né avec un cuir d'éléphant, personne ne peut me faire mal. Oui. Il n'avait pas un cuir d'éléphant.
Alors ça, c'est certain.
Voilà.
Je ne veux pas dire autre chose que cela.
Bon.
Personnalité très complexe.
Très complexe.
Réunissant les extrêmes.
Non, c'est un être paradoxal à tout point de vue. Par exemple, avant la guerre, il dit je préfère la physique au fait d'avoir des amis. Et après la guerre, il considère qu'enseigner la physique ou même faire de la physique, ça perd tout intérêt. Il pense qu'il y a des questions plus importantes. Et il va se préoccuper de la course à l'armement, du fait que les Russes, dès 1949, font un premier essai atomique. Et il a vraiment un souci pour l'humanité, qui, à mon avis, est sincère. Et je ne crois pas qu'on puisse résumer ça à des affaires d'orgueil.
Alors, simplement, il était très, très inquiet du développement de l'arme atomique, c'est vrai, mais Georges Kennan, qui est l'artisan de la politique d'endiguement. D'endiguement. Donc, c'était aussi avec... Il pensait que l'arme nucléaire servait à l'endiguement. Et il y a cet échange avec Ernest Lawrence, que je trouve tout à fait extraordinaire. Il a une conversation orageuse avec Oppenheimer. Et Oppenheimer lui dit, c'est précisément parce que la bombe a été si terrible qu'elle ne servira plus jamais. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que l'horreur d'Hiroshima et de Nagasaki n'a pas rendu possible la dissuasion nucléaire?
Ça, c'est Jean-Pierre Dupuis qui vous le demandait, mais moi, je fais remarquer simplement que si Hiroshima a été décidé, en tout cas, si les physiciens ont été grosso modo d'accord avec ce projet, c'est avec l'idée que le monde doit savoir que la bombe atomique est possible. Et sachant qu'elle est possible, peut-être que ça empêchera toute guerre du futur. Et c'est ça le pari, à mon avis,
Alors, il y a la question de la dissuasion.
Oui.
Il y a quelque chose qui m'a absolument étonné dans le livre que nous discutons. C'est qu'il y a un index dans les livres américains. Malheureusement, la plupart des livres français de ce genre n'ont pas d'index.
Oui, je regrette aussi.
Par raison d'économie, c'est une honte d'ailleurs pour l'édition française. Bon. L'index permet de vérifier que le mot pour dissuasion nucléaire, nuclear deterrence, n'apparaît pas dans le livre.
Non, mais il y a l'idée.
Parce qu'elle est si terrible qu'elle ne servira plus jamais.
Non, mais ça, c'est pas la dissuasion, je suis désolé.
C'est quoi?
Mais ça, c'est pas la dissuasion. Ça, c'est un argument ridicule.
Ah bon?
Absolument ridicule.
La preuve que ça n'a pas servi.
Mais attendez. Car s'il y a une guerre nucléaire, c'est ce que j'essaye de dire dans mes livres, là. Ça viendra pas de la volonté des participants. On peut penser à ce qui se passe en Ukraine, entre Poutine et l'Amérique. Hein. Ça viendra d'un accident que personne n'aura voulu. Hein. Ça, c'est ce point très important. C'est pas du tout le danger. Mais la dissuasion, ça n'est pas que la bombe est si destructrice qu'elle sera jamais utilisée. Enfin, écoutez, dans l'histoire de l'humanité, des choses de ce genre sont arrivées contre la volonté de tous.
Et vous dites vous-même non, que ça n'arrivera pas par la volonté. C'est donc la volonté est arrêtée, et peut-être est-elle arrêtée par le souvenir traumatique d'Hiroshima et de Nagasaki.
La
question mérite d'être posée, Jean-Pierre Dupuy.
Sans doute, mais la dissuasion, ça n'est pas cela. La dissuasion, ça n'est pas du tout le caractère énorme de la bombe atomique, sa violence extrême, etc. La dissuasion, c'est un acte de langage qui dit « Si tu franchis une ligne, alors je déclenche la course à l'extrême, enfin la montée aux extrêmes, qui va nous détruire tous. » C'est le « Mutual Assured Destruction ». Voilà. Or, à aucun moment, Oppenheimer, non seulement en faisant foi à ce livre, mais d'autres livres, ne parle de cela. Alors, cela dit, c'est vrai qu'il y a un moment dans le livre où on voit qu'il en parle un tout petit peu, lorsqu'il distingue entre les armements stratégiques et les armements tactiques. Et ça, c'est essentiel pour comprendre ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. 3 minutes pour parler de cela. Oppenheimer dit à un moment, ça sert à rien d'augmenter le stock d'armements stratégiques. Alors, stratégique, tactique, qu'est-ce que ça veut dire? La définition n'est pas très nette. Tactique, ça veut dire de faible portée, certes, de faible pouvoir destructif, certes, mais surtout des armes qu'on peut utiliser sur le champ de bataille. Stratégique, c'est avec des fusées intercontinentales, ICBM, c'est des puissances, c'est de la bombe à hydrogène, et ça sert uniquement à la dissuasion. Alors, ce que dit Oppenheimer à un moment dans le livre, que je ne savais pas, c'est des armements stratégiques, l'Amérique en a suffisamment, en rajouter ne servirait à rien, ça n'augmenterait pas la dissuasion. En revanche, il était pour le développement des armements tactiques. Mais ça, c'est extrêmement grave. C'est une erreur de jugement que l'histoire a... Alors, je parle de deux mots sur la guerre en Ukraine. Poutine a compris, contrairement aux Américains et à l'OTAN, disons, que ce qui comptait pour ces manœuvres, c'était les armements tactiques. Il en a 20 fois plus que l'OTAN. L'OTAN, en Europe, a à peu près 100 têtes nucléaires tactiques et Poutine en a, semble-t-il, 2000. Donc, écoutez, je résume en une phrase. Si Poutine est acculé, le seul domaine dans lequel il est fort, c'est les armements tactiques. Et il les utilisera.
Étienne Klein.
Enfin, moi, je crois que la dissuasion, elle est implicitement présente dans le discours d'Oppenheimer, en tout cas dans sa tête. De toute façon, il est paradoxal, il dit pas toujours la même chose.
Ah, oui.
Sa pensée évolue au cours du
temps.
Oui,
elle évolue.
Il y a des informations qui lui viennent, il y a les essais.
Elle évolue, elle est erratique.
Voilà, il y a les bombages qui sont essayés ici ou là, du côté américain, du côté russe, etc. Donc, je pense pas qu'on puisse figer sa position en une seule phrase. Mais par exemple, la dissuasion, elle est présente quand il dit par exemple que avec la bombe, des jeunes garçons qui sont aujourd'hui vivants pourront devenir adultes grâce à la bombe. C'est donc grâce à l'effet dissuasif qu'elle peut avoir. Donc je pense que le mot n'existe pas, ou n'est pas cité, mais l'idée est bel et bien là.
Je peux faire une citation ici?
Bien sûr.
C'est l'exergue de mon livre, La guerre qui ne peut pas avoir lieu, excusez-moi pour la publicité. Bon. J'ai toujours beaucoup réfléchi à la question de la guerre nucléaire. C'est un sujet qui a beaucoup d'importance dans la manière dont je pense. C'est la catastrophe ultime, extrême. Le monde n'a pas de défi plus important à relever. Et pourtant, personne n'analyse les mécanismes qui y mènent. Personne ne veut en parler. Je crois qu'il n'y a rien de plus stupide que de croire que cela n'arrivera jamais, juste parce que tout le monde sait que les armes nucléaires ont un immense pouvoir de destruction et qu'on va donc se garder de les utiliser. Quel bullshit. Traduction bon français, quelle connerie. Citation de Donald Trump, 1er mars 1990.
Ah bon, ben
c'est... Mais attendez.
Alors c'est...
Non
c'est...
mais même Donald Trump, qui n'a pas toujours été sénile, en 1990 il n'était pas, a compris que c'était un argument ridicule. Dissuasion, c'est autre chose que... C'est très... Bon, enfin, je ne vais pas répéter
nous,
ce que j'ai...
Non, mais... C'est drôle que vous nous parliez de l'ego d'Oppenheimer et que vous nous citiez Donald Trump. Voilà, ça c'est un des paradoxes de notre conversation,
oui, tout à
Jean-Pierre
fait.
Dupuy.
Bon, je l'assume.
Mais vous l'assumez.
Dans le livre de Jean-Pierre Dupuy, il y a une citation du prix Nobel d'économie 2005 qui s'appelle Thomas...
Schelling.
Qui dit l'événement le plus important qui s'est déroulé depuis 60 ans, c'est un événement qui n'a pas eu lieu, à savoir le fait qu'aucune bombe n'a explosé dans des buts d'anéantissement.
Alors, d'un autre côté, on pouvait croire que justement, la dissuasion nucléaire mettrait fin aux guerres, ça n'a pas été le cas. Donc, Oppenheimer dit, ça va permettre à des enfants de grandir. Les Américains, depuis 45, ont été engagés, n'ont jamais cessé de faire la guerre, en quelque sorte.
Oui, mais qui peut dire...
C'était des conventionnels, mais ils n'ont jamais cessé de faire la guerre.
Qui peut dire, par une sorte d'expérience de pensée, ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu Hiroshima et Nagasaki? Est-ce qu'il y aurait eu moins de guerres ou plus de guerres? Mais, qui peut savoir ça?
Mais alors, s'il n'y avait pas eu Hiroshima et Nagasaki, il faudrait ajouter s'il n'y avait pas eu de bombe atomique. Ou alors, une bombe atomique qui n'aurait pas été utilisée.
Oui, mais bon, peut-être n'aurait-elle pas été utilisée qu'elle aurait fait moins peur.
Mais alors, justement, donc là,
Il y a une question aussi qui se pose. Vous avez parlé de l'arme nucléaire tactique que la Russie, acculée, risque d'utiliser.
Voilà.
Mais un autre État entre dans la danse depuis peu, l'Iran. L'Iran ne fait pas mystère de son désir de rayer Israël de la carte. L'Iran est sur le point d'avoir le bon. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi c'est si difficile pour l'Iran, alors que ça a été si facile pour la Corée du Nord. Il y a quelque chose qui m'échappe. Là, en tout cas, il ne l'a pas. Mais est-ce que la discussion est une parenthèse dont, d'une certaine manière, à cause d'un accident possible, à cause de l'utilisation des armes nucléaires tactiques, et aussi avec l'entrée en scène de l'Iran, une parenthèse dont nous sommes en train de sortir.
Moi, je ne sais pas dire si la dissuasion fonctionne simplement, enfin jusqu'à maintenant en tout cas, simplement parce qu'on a de la chance qu'elle ait fonctionné finalement, ou bien si c'est parce que structurellement, elle est efficace. Bon. Je pense qu'il est trop tôt pour le dire.
Je ne vais pas dire que j'ai écrit un livre entier pour montrer qu'elle n'était pas efficace. Mais
la thèse de Jean-Pierre Dupuis, c'est qu'il y aura des explosions de bombes atomiques par accident, par erreur, par accident. Mais c'est pas. Ça veut dire quand même que la dissuasion est efficace. Parce que s'il n'y a pas d'erreur, alors
s'il n'y a non. pas. Alors attention, c'est pas que l'explosion de la bombe. C'est ce qu'on appelle en anglais le near miss. On est passé à ça près.
Ah, ça, on l'a fait plusieurs fois.
Alors, oui, on peut compter à 32, 33 fois le nombre de cas depuis 1945 où on est passé à ça près. Alors, il faut faire un geste ici, un cheveu près du déclenchement d'une guerre atomique. Bon, on a eu du bol. C'est la thèse de McNamara. À la question, est-ce que c'est la dissuasion? Il répond, we lucked out, on a eu du bol. Bon,
ou alors, on est conscient que franchir cette épaisseur d'un cheveu serait catastrophique pour tout le monde.
Si on a eu du bol, bon, là, c'est le hasard.
Et l'Iran, c'est ce que ça vous fait peur ou
alors,
non?
Alors, il y a quelqu'un à qui ça ne faisait pas peur, je vous le rappelle, hein, c'était Jacques Chirac, qui, un jour, a dit... Mais après tout, si l'Iran a la bombe et comme Israël l'a, ben ce sera comme les États-Unis, ce sera la même chose. Bon, le lendemain, l'Élysée niait que ceci ait jamais été dit. Bon,
oui.
Alors on peut prendre un autre exemple, l'Inde et le Pakistan, qui sont à 20 km de distance l'un de l'autre. Ça a tenu jusqu'à présent.
Est-ce que ça tiendrait sans la bombe?
Est-ce qu'il se ferait la guerre sans la bombe?
Oui.
Est-ce qu'il se ferait la guerre sans la bombe?
Oui,
c'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que c'est grâce à la guerre, à la bombe, qu'ils ne se font pas la guerre.
En tout cas, je pose la question, j'en sais rien.
Non, mais bon, enfin, moi, j'en sais rien non plus, mais enfin, j'ai tendance à répondre.
Mais c'est-à-dire qu'on peut se dire aussi que l'islamisme radical prend une telle. Est sur une telle dynamique que la rencontre de l'islamisme et de la bombe atomique, excusez-moi l'expression, à quelque chose d'explosif.
Oui. Alors là, c'est un sujet très voisin, mais c'est le terrorisme atomique.
Oui, voilà.
Le terrorisme nucléaire. Mais évidemment, ça fait très très peur. Mais...
On verra.
Bon.
Oui. Alors juste une ultime question que je vous adresse, Étienne Klein. Pensez-vous que l'idée de la physique ait été durablement affecté par, justement, la construction de la bombe atomique?
Je vais dire une banalité. La bombe, ça a coupé l'histoire de la physique en deux. Il y a un avant et un après. Oui. Et on s'est rendu compte que les physiciens sont des gens qui ont des moyens à leur portée qui sont extrêmement puissants. Et donc, on a créé, après la guerre, des grands laboratoires. Le commissariat à l'énergie atomique a été créé par une ordonnance en 1945. Donc c'est l'idée qu'on doit comprendre tout ça, gérer tout ça, se rendre maître de cette nouvelle forme d'énergie pour des applications civiles ou bien militaires. Et ça a changé l'idée qu'on se fait de la responsabilité du physicien.
Ah oui, donc avec votre idée aussi.
Ben oui, puisque Paul Valéry disait l'homme sait assez souvent ce qu'il fait, mais il ne sait pas ce qu'il fait. Et c'est vrai particulièrement pour le scientifique, l'ingénieur. Les gens qui ont fait la bombe savaient ce qu'ils faisaient. En gros, parce que quand on voit les connaissances qu'ils avaient à l'époque en physique nucléaire, qui sont vraiment par rapport à celles qu'on a aujourd'hui extrêmement petites, on se demande comment ils ont pu avoir la certitude que ça allait bien fonctionner. Les appareils de détection de rayonnement n'étaient pas très au point, les connaissances théoriques n'étaient pas du tout abouties, et voilà, ça a marché. Mais je sais plus ce que je voulais dire.
Non, mais vous l'avez dit, mais alors, vous avez dit ce que vous vouliez dire. Alors justement.
C'est pas sur la physique, mais c'est sur l'humanité, tout simplement. Je crois que ça a changé énormément de choses, parce que est devenu possible, et dans la conscience de tout le monde, que l'humanité pouvait mettre fin à elle-même. Alors certainement pas avec les bombes d'Hiroshima et de... D'ailleurs, j'ai appris récemment que la bombe de Trinity était une fois et demie plus forte que Hiroshima. Ouais. Extraordinaire. Hein. Bon, donc Hiroshima, Nagasaki...
C'était le monde au plutonium.
C'était des petites bombes.
Celle d'Hiroshima. Ouais,
Nagasaki, plutonium. Ouais. Mais faible puissance, 15 kilotonnes.
Et maintenant, on a des bombes...
Bon, alors, non, bien sûr. Alors, et ça, évidemment, ça change tout.
La perception que l'humanité est d'elle-même.
Écoutez, si on parlait du changement climatique dans cette émission, on serait ramené à la violence des hommes et aux guerres que ça, et donc aux guerres nucléaires que ça va produire.
Merci beaucoup, Étienne Klein, Jean-Pierre Dupuis. Alors, je rappelle le titre de la biographie d'Oppenheimer, Robert Oppenheimer, triomphe et tragédie d'un génie. Les auteurs sont Kai Bird et Martin Sherwin, dans une traduction de Peggy Sastre. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui Benjamin Perru. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Le message du pape François. Mes invités seront Elisabeth Geffroy et Foucault Giuliani. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.